Il n'y a aucune haine plus féroce que la haine de Satan pour Dieu et pour Jésus, et donc pour diminuer la valeur et la personne de Jésus-Christ. Je crois qu'il y a au moins trois, il y en a beaucoup, de manières qu'il utilise, mais je dirais que peut-être le trois plus importantes sera ce qu'on appelle le légalisme. Le légalisme qui est fier de soi quand il voit « j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis pieux, Dieu doit être content avec moi ». Ça, c'est un cancer. Pourquoi Christ est venu de éradiquer le « moi » qui dit « il faut que je fasse quelque chose pour que Dieu devienne mon débiteur ». Oh, pas beaucoup, mais juste un peu. Pour forcer Dieu de dire « oui, d'accord, il n'est pas parfait, mais quand même il a fait ça, d'accord, s'il fait encore une fois, je l'accepterai ». Et puis que nous puissions tourner et dire « oui, je l'ai fait, Dieu doit m'accepter ». Sans connaître l'Évangile, tout le monde pense comme ça, dans toutes les religions, comme ça. Ils pensent que Dieu, je peux faire quelque chose, quoi que ce soit, je vais trouver la manière, par l'abnégation de soi, par me contraindre, refuser de faire ceci ou cela, par me forcer de faire ceci ou cela. Dieu regarde tout le temps, il est en train de voir mes actes. Et rien n'est plus fatal à la vie que ça. Dieu dit non. Même le pire de criminels, devant la justice, ils vont faire de leur mieux, de trouver quelque chose, de lancer devant le juge pour montrer un tout petit peu de bon caractère, en raison pour laquelle ils ne sont pas aussi mauvais que ça. Les pires de gens vont s'excuser. Et vont comparer avec d'autres personnes pires. Christ renverse tout ça. Il nous a permis de venir, ô Dieu, à moins que tu viennes au secours de mon terrible péché, il n'y a pas d'espérance pour moi. Ça doit venir de 3, pas 95%, 100%. Une autre chose, c'est les épreuves qui peuvent arriver. Dieu dit, vois des épreuves comme un sujet de joie, parce que ne vous inquiétez pas, ça c'est la manière nécessaire sur cette planète à cause du péché que j'ai pour que vous puissiez grandir dans votre foi, laisser les choses du monde derrière, mettre votre foi en Jésus-Christ à travers les épreuves. Vous allez avancer, vous allez grandir dans la persévérance. Et c'est un sujet de joie. Je pourvois des épreuves pour vous amener vers moi, dit Dieu. Satan exploite des épreuves pour vous éloigner de Dieu. C'est son but. Satan va prendre une épreuve. Vous ne méritez pas ça, vous méritez mieux que ça. Et on commence à se plaindre. Je me suis attrapé en pleine plainte ce matin. Il faisait beau, il y avait du soleil à 9h. Et quand je suis sorti juste au moment où les gens devaient venir, il pleuvait. Encore, et je me suis dit, oh, il pleut, et je me suis arrêté, parce que le ton dans ma voix était accusateur à celui qui fait que ça pleut. Et je me suis dit, ce n'est pas simplement pas bien ce que j'ai fait, c'est horrible, c'est terrible. c'est le péché de ingratitude. Je mérite le feu éternel et il me reçoit un tout petit peu de pluie qui est une petite inconvenance. Oui, depuis 6 semaines, mais bon. Et puis, on a des raisons de se plaindre. On n'a aucune raison de se plaindre. Et regardez des épreuves comme un sujet de joie parce que Dieu va vous enseigner cette leçon au fur et à mesure. Et puis une autre chose peut être la tentation. Ça, c'est le même mot en grec. Le mot pour épreuve, le mot pour tentation, ce même mot, ça, et c'est le contexte qui décide lequel c'est lequel. Mais en tout cas, l'un peut être l'autre et l'autre peut être l'un. Chaque tentation, chaque épreuve peuvent être, Dieu peut servir pour que nous soyons ouverts. Ministère de Dieu dans notre vie pour les accepter avec joie. Je ne mets que 3 choses, mais ce sont des choses qui nous arrivent tous les jours. Maintes fois, 365 fois par an, et sur quoi Satan ferait de son mieux de exploiter pour nous éloigner de Dieu, et Dieu ferait de son mieux de nous amener le plus proche de lui, de nous garder plus purs dans notre façon de voir la réalité. Et puis, les juifs de l'époque, juifs chrétiens, je souligne le fait que l'apôtre est en train d'écrire aux juifs chrétiens, ils étaient chrétiens, mais ils étaient tous juifs en ce moment, qui commençaient, à cause de la persécution, de repenser leurs choses, d'évaluer Christ. Et s'il y a un mot qui décrit tout le livre de Hébreux, ça peut être le mot « meilleur ». Maintes fois le mot « meilleur ». L'apôtre aux Hébreux est en train de montrer aux gens ce que vous avez quitté est moins bon, ce que vous avez accepté est meilleur, jusqu'au point où on peut facilement dire qu'il y a un nombre de moments ici sur ce piano ici, et tu risques maintenant, si tu continues, comme tu commences à repenser, de aller en arrière depuis la réalité jusqu'à l'ombre encore. Parce qu'en fin de compte, ça marchait bien. C'était un système mis en place par Dieu lui-même, le système lévitique, la loi de l'Ancien Testament. Et donc, pourquoi pas juste faire comme nos ancêtres ont fait pendant des centaines d'années? Ils avaient commencé de repenser ça. Sans doute, Satan faisait de son mieux de rassurer qu'il trouvait des raisons d'augmenter la logique derrière ce qu'il cherchait à faire. Et l'apôtre est en train d'utiliser beaucoup la logique biblique pour le faire comprendre. Il ne faut pas être si fou de faire ça. Il va même dire presque des choses comme ça. Donc, nous avons le premier verset de notre texte, parce que nous avons vu les dernières semaines, chapitre 7. J'ai vraiment envie de relire verset par verset, chapitre 7 encore, mais il y a 28 versets. Au chapitre 8, il n'y a que 13 versets. Et nous allons dans un instant, nous allons juste parcourir verset par verset, juste pour voir un sondage. C'était mon but de faire tout ce chapitre dans une seule fois, mais ça risque de ne pas marcher. De toute façon, le verset 1, si vous avez votre Bible, c'est ça ce que vous lisez. C'est pas moi qui dis le point capital, c'est l'auteur de Hébreux qui dit le point capital de ce qui vient d'être dit. C'est que nous avons un tel souverain sacrificateur, point, 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 j'aurais dû mettre, parce que dans un instant on verra le reste. Nous avons un sacrificateur que nous avons vu depuis plusieurs fois, qui est meilleur, infiniment meilleur. Il va résumer en versets 1 et 2 de ce chapitre ce qui vient de dire
dans les chapitres qui précèdent, surtout 6, et dans les chapitres qui vont suivre maintenant. Non simplement, donc il avait commencé comme ça. Rappelez-vous quand il avait dit, chapitre 1er, verset 1er. Les gens qui ouvrent cette longue lettre, pour eux, ils vont lire ceci. Le premier mot, c'est Dieu, mais qui, dans cette traduction, est mis plus loin. Mais Dieu, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et à plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par lequel il a aussi créé le monde. Et ce que l'apôtre est en train de nous dire, Jésus est le meilleur prêtre qui sert d'intermédiaire d'une meilleure alliance, parce qu'à partir de maintenant, pour le reste, dernière partie du chapitre, l'accent est mis sur l'alliance. Première partie, sur le prêtre. Et nous avons vu, comme tous les dimanches, je change le titre plusieurs fois pour essayer de montrer exactement ce que c'est. On en a déjà parlé de le prêtre. Chacun a besoin d'un prêtre. En fin de compte, il n'y a aucune chose pour qui que ce soit dans cette salle plus importante qu'un prêtre. Un prêtre. Un prêtre, et on verra dans un instant le sens, mais rapidement. On peut diviser le chapitre comme ceci. Si vous voulez juste noter quelques paroles, Jésus est le meilleur prêtre dans son ministère et dans le, et je soulignais, véritable tabernacle, on y revient. Donc trois choses importantes dans ces 6 premiers versets. Notre grand prêtre ou souverain sacrificateur, ça dépend de la traduction. Un sacrificateur, c'est un prêtre. Un souverain sacrificateur, c'est le grand prêtre, celui qui seul entrait dans le lieu très saint. Les prêtres pouvaient entrer dans le lieu saint. Le grand prêtre seul, une seule fois par an, avec beaucoup de cérémonies, avec beaucoup de purification, entre dans le lieu très saint. Notre grand prêtre est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Waouh, ça c'est une bouche pleine de grandes vérités. On verra rapidement dans un instant. Mais la deuxième partie, versets 2 à 5, Jésus sert comme un ministère du véritable sanctuaire. Il y a un meilleur prêtre, il y a un meilleur sanctuaire ou tabernacle. Et puis, troisième, puisque Jésus sert comme ministère dans le ciel plutôt que sur la terre, il a obtenu un ministère excellent. Verset 6. Alors, il y a deux applications que nous pourrions faire ici, et on pourrait arrêter juste après ça. Mais rapidement, Jésus, maintenant, ce qui fait la supériorité de sa prêtrise, Jésus sert au ciel et, appliqué, permet qu'il te sert. Il est là pour servir. Et nous avons vu 7:25, Jésus intercède à la droite de Dieu, toujours, sans arrêt. Il est en train de s'interposer entre la justice, la colère de la justice divine contre le péché et le pécheur qui a des péchés. C'est pour cela que j'ai dit, vous n'avez rien qui est plus important que d'avoir un prêtre qui reste devant, entre vous et Dieu, qui est comme une protection entre le feu de colère de la justice de Dieu sur vos péchés. Et il n'y a qu'un seul prêtre qui peut faire ça. Et ça, c'est la raison pour le livre de Hébreux, pour démontrer l'infériorité de la prêtrise avant et la supériorité de la nouvelle prêtrise. Et deuxièmement, les domaines célestes. Oh, si nous pourrions apprendre ça. L'Esprit doit nous apprendre ça. Les domaines célestes, spirituels, sont plus réels. Je crois que j'ai souligné ça. Que le matériel, le domaine matériel et le domaine visible. Donc, cherchez d'en haut les choses, les domaines célestes, spirituels, sont plus réels que le matériel et le visible. Êtes-vous d'accord avec ça? En tant que bon chrétien, vous allez dire oui que moi, oui. Pratiquement, peut-être pas. Si donc, l'apôtre Paul va dire en Colossiens, si donc, chrétien, croyant, si c'est votre cas que vous êtes ressuscité avec Christ, alors cherchez les choses d'en haut, c'est ça primordial, où Christ en ce moment est assis, on va voir ce mot encore, dans notre premier verset du chapitre 8, mais Christ est assis, pas debout. Une chose très importante, Christ est assis à la droite de Dieu. Alors, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Cultivez un appétit pour les bonnes choses. Nous avons tous eu l'expérience d'aller dans une autre culture et au début on n'aimait pas la nourriture, mais après plusieurs reprises, ça devient de mieux en mieux, et puis on rentre chez nous et on cherche un magasin où on peut acheter des choses qu'on a achetées dans l'autre culture. Et puis Dieu a dit, oui, cultivez-vous une affection pour des choses qui vous n'avez aucun intérêt, au contraire, vous êtes contre avant, parce que ça était un blocage entre vous, votre conscience et les choses que vous voulez faire. Non, cherchez les choses qui sont en haut, ils sont ça qui est le plus important, parce que vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, qui est notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Voyez le contraste entre les choses d'en haut, les choses sur la terre, l'éventuel moment où nous serons avec Dieu pendant toute l'éternité dans la gloire. Et puis la deuxième partie de ce chapitre peut être divisée comme ceci. Jésus est comme médiateur d'une meilleure alliance. Première, il était le meilleur prêtre. Deuxième, il est le médiateur, prêtre est un médiateur, on verra ça aussi dans un instant, d'une meilleure alliance. Première chose, la meilleure alliance n'aurait pas été nécessaire si le premier n'avait pas été sans défaut. Alors ça, c'est une citation de verset 7. Deuxième, puisque le peuple de Dieu ont péché, Dieu a promis une nouvelle alliance. Et ça, c'est 8 à 12. Et dernier verset, à partir du moment que Dieu a promis une nouvelle alliance, l'ancienne est devenue obsolète et était sur le point de disparaître. Donc, nous allons juste parcourir pendant quelques minutes à travers, verset par verset, juste pour essayer de saisir les points essentiels avec ces deux visions. Et j'ai mis le mot récapitulation, mais c'est l'apôtre lui-même qui fait une récapitulation, comme nous venons de lire. Le point capital, dit l'apôtre, de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain, sacrificateur, un tel, quel est le tel, qui n'est pas comme l'autre, mais qui est assis, l'autre n'est pas assis, à la droite du trône, l'autre n'a rien à faire avec le trône, la royauté, de la majesté divine, il n'était pas connecté sauf par ordre de Dieu, mais il était sur la terre et dans les cieux. Donc, on a au moins quatre choses ici. Cette ce prêtre supérieur n'est pas ici sur la terre. Il est au ciel. Qu'est-ce qu'il fait? Il est assis. Assis? Ça, c'est un mot qui choquerait parce qu'aucun prêtre ne se met jamais assis en faisant le service. En officiant dans le tabernacle ou après dans le temple, il restait debout pour signifier son travail n'est jamais fini. Il va finir la cérémonie d'aujourd'hui, mais il va commencer à laver les choses pour préparer pour la cérémonie de ce soir, et puis après pour demain matin, et pour les autres cérémonies à travers l'année, et son travail n'avait jamais été fini. Le prêtre supérieur a fini le travail. Et ça, c'est l'annonce. Il leur dit, il est assis. Il est assis, pas à gauche, mais à droite. J'aurais pu mettre plusieurs références où, métaphoriquement, le droite était symbolique d'une égalité, où il se met en égalité avec le roi. Jésus, le Fils, assis, le grand prêtre assis à côté du trône de la majesté. Il n'y a que deux fois dans la Bible où ce terme est utilisé en tant que titre. Il est assis à côté de quoi? De la majesté divine. Le prêtre est assis à côté de la majesté divine. Verset 2. Comme ministère du sanctuaire et du véritable, je l'ai souligné, tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Il est en train de faire une contraste. Il a dit Lévi, Aaron, j'aurais pu mettre Aaron, le tribu de Lévi. Le tabernacle était symbolique, était une image, était un ombre. Le tabernacle était érigé par les hommes, mais le tabernacle où le prêtre supérieur, ministre, maintenant, était érigé par Dieu. Ça, c'est le sens de verset 2. Et puis verset 3. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter les offrandes et des sacrifices, point virgule, donc principe. Pourquoi existe un prêtre? Qu'est-ce qu'un prêtre? Un prêtre, le mot prêtre, c'est le nom donné à celui nommé d'offrir des offrandes et des sacrifices pour l'expiation des péchés des autres. Ça, c'est le travail d'un prêtre. Un prêtre existe pour ça, pour offrir des offrandes et des sacrifices exigé par la divinité par rapport aux péchés qui ont été commis. Il existe pour ça. Il est bien de noter, Christ étant le dernier ayant cette fonction, je répète, la dernière personne qui ayait la fonction de prêtre était Christ lui-même, entré dans le ciel, assis à côté du Père pour dire le travail de la prêtrise terminé, une fois pour toutes. Combien de temps ils vont dire ça dans le livre de Hébreux? Et donc, très intéressant que par rapport au ministre de l'Évangile, nous avons beaucoup de différents mots, mais jamais le mot prêtre. Aucun ministère de l'Évangile se porte par ce titre. Ils sont appelés, par exemple, des ministres, des ambassadeurs, des pasteurs, des évêques, des surveillants, des anciens, des serviteurs, etc. Mais jamais une seule fois prêtre. Et il y a une raison pour cela. Parce qu'il n'y a aucun prêtre qui existe pour offrir un sacrifice. Et ça, c'est une abomination de dire « j'ai fait le sacrifice ». Et tu viens en essayant d'acheter encore ma paisible grâce avec ça? Non. Ça, c'était figuré avant. Ça, c'était symbolique avant. Ça, c'était préfiguration de ce qui viendrait. Fini une fois pour toutes. une fois pour toutes, le voile dans le temple déchiré du haut jusqu'en bas. Tout le monde qui demandait qu'est-ce que c'est dedans, qu'est-ce que c'est dedans. Ils savaient ce que c'était dedans, mais ils n'avaient jamais vu. Ils n'avaient jamais vu l'autel qui est à l'intérieur. Le prêtre, le grand prêtre, seul, entrait dedans. Pendant quelques années, il est tombé malade, il est mort. Puis il fallait un autre. Quand il allait construire le tabernacle, il a été averti divinement. Parce que, ouvrez les guillemets, parce que, prends garde, dit-il, de faire des choses selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Fin de citation de l'Ancien Testament. Donc, le tabernacle de Moïse, nous avons une image qui est une illustration, on peut dire que c'est une parabole. Le tabernacle était une parabole. Tout ce qui se passait était des paraboles de ce qui venait. L'ombre obscure, quant au sens, et Dieu veut que nous comprenions, oui, vous voyez un tout petit peu, mais si, absente de la totalité de la gloire, que c'est comme un nombre par rapport à la réalité, un modèle, Dieu lui donnait un esquisse, Dieu lui avait donné un plan, et si vous lisez Exode, chapitre 25, et d'autres chapitres en Exode, vous voyez le détail très minuscule qui a été donné par Dieu, pour qu'il fasse correctement jusqu'au petit détail. Les choses. Et puis, rappelez-vous, Étienne, le diacre entre sept dans le Nouveau Testament, attention, après l'ancien système, Jésus-Christ est né, il est mort sur la croix, il est ressuscité par le tombeau, il est monté à la droite de Dieu, et les pharisiens, les religieux, ils étaient tellement antagonistes. Qu'est-ce qu'il disait? Nos pères, disait Étienne dans ce fameux serment, le plus long serment dans tout le Nouveau Testament, chapitre 7, il arrive vers la fin, il est en train de faire de plus en plus furieux. Mais nos pères, disait-il, avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire après le modèle qu'il avait vu. Et il est en train de faire référence à Exode chapitre 25 et verset 40, que vous pouvez voir si vous voulez plus tard. Donc tous les Juifs savaient, et tous les Juifs, ils avaient dans leur tête, ces chrétiens, ils sont déterminés. Si la doctrine couvre le monde, notre prêtrise est finie. Nos prêtres sont finis. Ils sont là pour détruire. Ce n'était pas le cas. Il n'y a aucun chrétien dans ce temps qui prendrait une épée contre le gouvernement. Il préférerait de mourir que de prendre position physiquement pour leur foi, mais c'était le cas. L'irrésistibilité de la vérité, que si on suit Christ, l'autre n'aura aucune valeur de plus. Verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère, Jésus, d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance, plus excellente, et qui a été établie sur des meilleures promesses. J'ai dit tout à l'heure que le mot meilleur est un mot qui apparaît très souvent, et il est en train, même dans ce verset, de montrer qu'il y avait un meilleur ministère, bien supérieur que l'ancienne. Il y a un meilleur médiateur d'une alliance plus excellente. entre l'homme et ses péchés et Dieu et sa sainteté. Vous avez Dieu et sa sainteté ici, l'homme et son péché ici. Il faut absolument un prêtre qualifié, capable, volontiers, qui peut se mettre hein, cette feu, cette mur de fer, afin que le feu qui consomme le cancer de péché. J'ai une illustration dans ma tête ce matin quand je étais en train de méditer, qui m'est jamais venue à l'esprit. Je ne sais pas si ça peut être médicalement affirmé ou pas. Mais je sais qu'il y a de la radiation, il y a la chimiothérapie pour ceux qui ont du cancer. Je sais aussi que quand on est en train de recevoir des traitements pour le chimio, c'est très 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 bien réglé, c'est très 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 soigneusement surveillé, contrôlé, parce que trop c'est trop. Pourquoi? Parce que le chimio existe, le radio existe pour attaquer le cancer, les mauvaises cellules, pas pour attaquer les bonnes, mais le problème c'est ils vont attaquer les bonnes, et la situation des docteurs, c'est de le moins possible, de faire le moins dommage possible quant à la destruction des bonnes cellules et de attaquer les mauvaises et de espérément éliminer le cancer. Thierry, tu peux me répondre après. Mais combien de chimio faut-il pour tuer n'importe qui? Imaginez tout le chimio du monde lancé directement à une seule personne. Qu'est-ce que ça fait? Ça attaque le cancer. Vous n'avez aucun cellule dans votre être qui n'est pas contaminé par le cancer de péché. La Bible nous enseigne ça. La colère de la justice de Dieu va, sans réflexion si vous voulez, attaquer le cancer de colère, de péché, s'il n'y avait pas pour notre prêtre. C'est pour cela que nous avons besoin d'un prêtre. Nous n'avons besoin de rien s'il n'y a pas de prêtre. On n'a besoin de rien. C'est fini, la vie. Mais si le prêtre est là, et s'il a accepté notre cri, notre demande de miséricorde, tel que nous soyons pécheurs, la colère de Dieu est arrêtée à notre prêtre. Ça, c'est que nous sommes en train d'apprendre à travers ceci. Nous avons des meilleures promesses par rapport à tout cela, ce que nous verrons dans quelques versets. Juste pour voir ça, nous avons un ministère supérieur, un médiateur plus excellent, des promesses meilleures. Paul va parler de cela et nous ne prendrons que... On a lu ça la semaine dernière dans notre lecture continuelle, mais on ne s'est pas arrêté dessus. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Je me demande, dans cette salle, combien de ministres de cette nouvelle alliance existent-ils? J'aimerais vous voir dire une quarantaine. On attend 40 et 50 peut-être. Chaque personne qui a mis sa foi en Jésus-Christ est maintenant un ministre de la nouvelle, le Nouveau Testament, de la nouvelle alliance, de cette nouvelle chose que le Seigneur est venu pour faire agir. Dans l'Ancien Testament, 400 ans avant Jésus-Christ, voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi, et nous savons qu'il parle de Jean-Baptiste, et soudain entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. Et le messager, ça c'est un mot qui apparaît plus que 200 fois dans le Nouveau Testament, ça se traduit ange, une centaine de fois. Messager d'autrefois, le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il arrive, dit l'Éternel des armées. Fallait encore 400 ans. Il arriverait, mais Jésus disait, cette coupe que vous prenez, que nous avons pris la semaine dernière, est la nouvelle alliance en mon sang, dit-il. Faites ceci en mémoire de moi chaque fois que vous en boirez. Verset 7. En effet, dit-il, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Ce qu'il est en train de dire, c'était très délicat, parce que il est en train maintenant de dire, Dieu a inauguré la première prêtrise. Les Juifs aujourd'hui pensent que quand tu parles comme ça, c'est le pire de blasphème des orthodoxes juifs de 2015. Tous les Juifs depuis tout le temps. Les chrétiens qui ont cru en Jésus-Christ étaient ceux qui allaient contre des millénaires de culture, de religion, de acceptation. C'est Dieu qui a établi notre prêtrise. Qui est qui de jamais oser aller contre tous ces chrétiens à qui il parle et qui maintenant commencent à penser peut-être on est allé trop loin. Non, vous n'êtes pas allé trop loin. Sachez d'abord ici donc défaut, pas dans le sens moral, pas dans le sens tort, mais dans le sens limité. Ils n'étaient pas capables. Les prêtres venaient, mais les prêtres ont offert parce que Dieu a institué une prêtrise où il pourrait garder la colère de la justice en attendant que la deuxième arrive. Mais en attendant, il fallait que des prêtres, il n'y a aucun prêtre qui était capable de se mettre devant Dieu, entre Dieu et les hommes, et arrêter le feu de la colère de Dieu. Il était lui-même pécheur. Pas possible que ça soit le cas. Donc aucun prêtre lévitique était qualifié, ni serait qualifié, pour le verset de la semaine dernière, sauver parfaitement ceux qui approchaient de Dieu par lui. Regardez juste plusieurs versets en arrière. Verset 25 de chapitre 7. Jésus-Christ, le grand prêtre, supérieur à aucun autre prêtre, peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Et puis verset 27, j'aurais dû mettre 26 aussi, mais vous pouvez le voir vous-même qu'avec 28. Mais Jésus n'avait pas besoin, comme des souverains sacrificateurs, d'offrir. Jésus n'avait pas besoin, comme les autres souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses propres péchés, et puis ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même la dernière offrande expiatoire. Ah, verset 8. Et à partir du verset 8, jusqu'à 12, l'avant-dernier verset, l'auteur va citer Jérémie, pas tout à fait mot à mot, mais très proche, afin qu'ils comprennent que dans leurs propres écritures de l'Ancien Testament, Jérémie avait déjà prévu cette nouvelle prêtrise. Dans des mots où il serait impossible de ne pas comprendre. Et voyons les versets. Vous les avez dans votre texte. Voici viennent les jours, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les fuir pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Le problème n'était pas l'alliance, le problème c'était les gens, les adorateurs infidèles. Ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. C'est-à-dire, je leur ai laissé tomber dans le désert, morts, à cause de leur incrédulité, ce que nous avons déjà vu en chapitre 4. Mais, verset 10, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai pour eux leur Dieu. Ils seront mon peuple. Aucun, verset 11, continue, aucun n'enseignera plus son prochain, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, point d'exclamation, impératif, connais le Seigneur, mettez au catéchisme, écoutez ça, je vous donne un examen, connais le Seigneur. Non, ils vont pas dire comme ça. Et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Non, excuse-moi. Connais le Seigneur, car tous me connaîtront. Et je vais juste faire une parenthèse, c'est le connaissance de intimité, pas le connaissance de information. Écoutez, si vous voulez connaître quelque chose, plus que vous voulez connaître quelque chose, plus que vous ferez de votre mieux de ne pas laisser détourner une pierre dans votre recherche sans que tu trouves la réponse de ce que tu cherches, ou c'est une personne, de mieux connaître cette personne. C'est la connaissance que je vais mettre dans leur cœur, le désir. Je vais résumer ça dans quelques instants pour terminer. Connais-tu le Seigneur? Non, tu n'entendras pas ça. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au le plus grand entre eux. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus. Fin de guillemets de la citation de Jérémie. Et puis l'apôtre dit, en disant une alliance nouvelle, Jérémie a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancienne et qu'il a vieilli est prêt de disparaître. Quatre pensées de ce ici. Je sais que nous sommes dans un passage qui est très discuté et même disputé. Je n'entrerai pas dans ces disputes et ces discussions, juste des choses qui sont claires pour tous ceux qui croient en Christ. Contemplez la grâce de cette nouvelle alliance. Je vais vous donner quatre choses pour terminer. Dans ce texte, verset 10 et surtout verset 11, donc gardez vos Bibles ouvertes à versets 10 et 11. Je vais le relire. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Première chose que nous voyons de verset 10, une prédisposition du cœur, une transformation morale. Je mettrai mes lois dans leurs pensées. je les graverai dans leur cœur. » Alors, vous le savez, la première loi était donnée où et comment? Sur la montagne de Sinaï, où Dieu avait gravé la loi sur la pierre. Moïse est descendu avec cette loi, non simplement les 10 commandements, mais toutes les lois cérémoniales et toutes les lois rituelles qui étaient clairement notées dans Lévitique et Exode et Nombre. Toutes ces lois, Dieu dit, fais ceci, peine de mort. Ne fais pas ça, peine de mort. Insister que chaque personne obéit la loi. Tout était externe. Oui, il y en a certaines qui ont internalisé le plus possible, qui adoraient Dieu, minimal quand même. La plupart des gens, ils étaient des légalistes à fond, qui pensaient, à condition que je fasse ça, je fasse ça, je fasse ça, je présente ma liste de 10 choses, cochées, Dieu ne peut pas ne me pas accepter. C'était leur mentalité. Et donc, Dieu dit non, ça va finir. À Pentecôte, le Saint-Esprit a été envoyé pour demeurer dans les cœurs. Je mettrai mes lois dans leurs pensées, je les graverai dans leurs cœurs. Et c'est pour cela que nous pouvons savoir que on parle. Juste tout récemment, j'étais engagé dans une discussion avec une personne qui pensait, Robert, tu dois enseigner que des chrétiens peuvent perdre leur salut, parce que si tu ne permets pas, si tu dis pas ça, ils vont penser, ah, j'ai reçu le salut et puis je peux vivre n'importe comment. Non, 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 s'ils peuvent être sauvés, mais si jamais ils ne sont plus sauvés, jamais ils font des erreurs, eh bien, ils font des bêtises. Où ils tournent, détournent de Dieu, ils vont perdre leur... Ça, c'est logique, c'est... Oui, mais la Bible est très, très claire qu'on est sauvé et qu'une fois sauvé, Dieu ne permet que personne n'entre de ses mains. On est sauvé une fois pour toutes. On ne peut jamais perdre notre salut. On va entrer dans cela. Je juste lance ceci comme ceci. Parce que la preuve de notre salut, l'assurance de notre salut vient dans notre vie de sanctification de tous les jours et de toute notre vie. Et quand le Saint-Esprit a mis sa loi dans notre cœur, il a aussi déclenché un feu d'amour qui vient de lui et qui retournait vers lui, très faible. Une flamme, une semence éternelle qui ne peut pas être éteinte, mais qui peut quand même être empêchée. Il y aurait les moments où on est prêt à accepter certains plaisirs plutôt que celles de... Mais c'est momentané. Notre désir est toujours là. Il n'est jamais extinct de vouloir plaire au Seigneur, comme le premier verset. Nos délices sont dans le Seigneur. Sa loi est écrite dans nos cœurs. Psaume que nous avons vu ce matin sur le tableau, ceux qui sont venus. Donc, la première chose à noter rapidement, une prédisposition du cœur, une transformation morale, surnaturelle, miraculeuse, qui peut être très souvent diminué jusqu'à presque rien, mais il ne serait pas diminué. C'est le grâce de la miracle de la nouvelle naissance. Ça s'appelle la régénération, Tite 3:5. Et puis deuxièmement, possession mutuelle. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Le but de Dieu depuis le début, c'était ça, la prière de Jésus-Christ dans sa prière sacerdotale. Jean chapitre 17. Ô Dieu, l'heure est arrivée. Ils vont voir ma gloire. Ils vont être en moi et moi en eux et ils vont voir comme je vois. Et tout ce que tu m'as donné, 10 fois il va dire ça dans cette prière, Jean 17, 7 fois, pardon, il va dire, tout ce que tu m'as donné viendront parce qu'ils ont reçu un don irrésistible à la fin. Et ils vont persévérer malgré toutes les choses qui arrivent dans leur vie, qui diraient le contraire. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et puis, verset 11. Tous vont connaître Dieu. J'ai dit tout à l'heure, très souvent quand le mot connaître est utilisé dans la Bible, c'est pas simplement une question d'information, c'est une question d'intimité. Une question d'intimité. Ils vont le connaître à la nouvelle naissance. La semence de l'esprit plantée dans le cœur fait naître le désir de connaître pas simplement un système de prêtrise pour éviter que je n'ai pas des carrés cochés, mais une intimité avec le Créateur. En Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. À notre nouvelle naissance, il y a plein de choses de l'ancienneté qui sont là. Mais les choses anciennes, le principe de notre raison d'être et de vie est miraculeusement, surnaturellement changé. Et maintenant, il y a en moi le désir de connaître Dieu. Le désir de faire partie de lui. Et de le chercher à connaître. On va chercher le moyen. Ce n'est pas qu'on n'a pas besoin des instructeurs. Ce n'est pas qu'on n'a pas besoin des enseignants. On en a besoin. Les gens viennent parce qu'ils veulent apprendre. C'est pas besoin, ce n'est pas qu'on n'a pas besoin de lire d'autres livres chrétiennes par des gens qui sont allés plus loin que nous, qui peuvent nous aider. Ce n'est pas ça ce qui est impliqué ici. C'est le désir de connaître Dieu, une intimité, de vouloir grandir et de aller jusqu'au bout avec le Seigneur et attendre impatiemment le jour de son retour pour que nous puissions enfin connaître comme nous sommes connus. Et finalement, verset 11, pardon actuel. Vous savez que quand les prêtres terrestres officiaient dans le temple et dans le tabernacle avant le temple, le pardon n'était pas là. Leur péché était couvert. Officiellement pardonné, non. La colère de Dieu n'est pas encore brûlé contre. Dans sa grâce, il a mis pour plus tard le temps, mais entre-temps, ils ont pile des péchés après péchés après péchés, des énormes péchés. Et le pardon, bien que employé en tant que ce monde, ayant vouloir dire que Dieu, pendant un certain temps, a passé du côté grâce aux prêtres qui faisaient leur office fidèlement jusqu'ils meurent, remplacés par un autre, mais ils ne se mettaient pas entre Dieu et l'homme pour absorber la colère de la justice. Une personne a fait ça. Et ça, c'était notre grand sacrificateur. Et nous sommes pardonnés. Rien n'est plus merveilleux de pouvoir dire « Je suis un homme pardonné. Toute chose que j'ai fait, j'ai pas fait. À la croix ont été traités définitivement, judiciairement. Ce n'est pas à dire qu'on n'a pas besoin de pardon paternel de notre Père. On n'a souvent pas envie de regarder dans les yeux de notre autorité parce que nous savons bien, on était en flagrant contradiction avec notre autorité, que ce soit notre Père, notre Mère, un patron, un professeur, on sait, il sait, je sais, et on a du mal à regarder dans les yeux. Culpabilité qui se sent. Et Dieu nous a pardonné. Je terminerai par cette histoire. que j'ai montré à quelqu'un dans la semaine, il y avait un évangéliste aux États-Unis qui, avant sa vie, avant sa foi chrétienne, avant de connaître Dieu, il vivait une vie très, très, très prolifique, une vie très, très de débauche. Il avait fait du mal à beaucoup de femmes. Il a été sauvé d'une manière merveilleuse, entièrement changé. Il commençait juste à partager son témoignage de la grâce de Dieu pour un tel homme comme lui. Et des gens venaient de plus en plus et parfois il était demandé de montrer son témoignage devant beaucoup de public. D'abord, il a refusé, mais en fin de compte, parce qu'il voulait aller et chercher les personnes qu'il avait trompées et confesser ses péchés, exprimer son remords, demander le pardon. Il y avait une personne qu'il n'a jamais pu trouver. Et donc, n'a pas même voulu, jusqu'à ce qu'il a trouvé tout le monde, mais introuvable, il a accepté un engagement de donner son témoignage dans une église avec plusieurs centaines de personnes. Le pasteur vient de l'annoncer comme quelqu'un qui allait porter son témoignage, etc. Et quand il se levait pour prêcher, il regardait jusqu'au fond dans le balcon. Et cette dame était là, présente. Il a dit, tournez vers le pasteur, est-ce que tu peux faire chanter quelques cantiques? J'ai du travail à faire. Alors il a descendu du strade, il est allé jusqu'au balcon, s'est mis à côté de cette personne, il a dit, je vous ai trompé. Je demandais pardon à Dieu, je ne pouvais pas te trouver jusqu'à maintenant, mais j'ai besoin de ton pardon. Elle était tellement choquée. Elle a enlevé de son sac un grand drapeau rouge. Grand, grand, plus grand que ça. Elle a dit, tu sais, j'avais entendu parler de ce que tu fais. J'étais tellement en colère contre toi que je suis venu ce soir, pas pour accepter ta religion, ça ne m'intéresse pas, mais pour démontrer que tu n'es qu'un hypocrite. Et en plein milieu de ta ferveur, j'allais prendre sa drapeau et commencer à crier. Il est un hypocrite. Je peux vous dire ce qu'il m'a fait. Mais je ne le ferai pas. Et puis, il est remonté. Il a donné son témoignage. La joie de savoir qu'on est pardonné. Le psalmiste dit ça, je crois. Psaume 31. Heureux celui qui a cette transgression pardonnée. Rien n'est mieux, rien n'est meilleur, rien n'est plus libérateur. Mais de dire non, 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 je dois mériter mon salut. Je ne vais pas crier comme ce publicain. Aie miséricorde sur moi, pécheur que je suis. Non, 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 j'ai fait ça pour moi quand même. J'ai fait ça, j'ai fait cette rite religieux, et je suis allé 10 fois sans louper, aller à la réunion, à la messe, ou où que ce soit. J'ai quand même, je ne suis pas parfait, mais j'ai fait ça, comme un des papes qui avait vécu un des rois français, qui avait vécu une vie terrible, et qui disait sur son lit de mort, oui, je n'étais pas parfait, je fais des bêtises, je le sais, mais j'ai payé pour beaucoup de messes, pour faire sortir beaucoup de gens de purgatoire, donc je crois que Dieu doit quand même terminer par m'accepter. Tout le monde pense comme ça, naturellement. Dieu ne sauve que ceux qui sont entièrement perdus, qui n'ont rien dans la main à offrir comme sacrifice. Parce que le sacrificateur parfait est devenu le sacrifice parfait sur la croix du calvaire. Il est maintenant assis à la droite du trône du Père qui intercède en faveur contre l'accusateur Satan qui se présente pour accuser toi et moi. Notre avocat n'a jamais perdu un cas. il ne perdra jamais un cas. Il intercède. Il est le meilleur prêtre. Et vous n'avez besoin de rien plus important que ça.